Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec Tati Mapuku.
Okapi.
Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour améliorer les conditions des enseignants du secteur privé en RDC? Nous en parlons dans cette première partie de notre émission avec Jean Moussa Kouité. Il est président de l'Association nationale des écoles privées en RDC à NEPAC en sigle. Bonjour, monsieur Jean Kouité.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Merci. Comme deuxième invité, nous avons monsieur Brian Kasangana. Il est président du comité national de gestion de l'ANEPAC. Bonjour monsieur Brian.
Bonjour monsieur les journalistes.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous êtes intéressé par ces sujets, voici le numéro de contact 081-890-6394. C'est pour les appels en direct. Appelez-nous. Nous ferons le plaisir de vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels ci-après. service@radiokapi.net. Tati Mapuku vous présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Marcel Gombo réalise et coordonne ces magazines d'Okapi Service. Mimi Kindou s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de votre magazine La Vie au quotidien, Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le secteur de l'enseignement privé en RDC connaît un développement rapide en termes d'écoles maternelles, primaires et secondaires depuis les années 90. Cependant, le personnel enseignant du secteur privé n'a aucun subside public. Toutes les charges financières reviennent aux parents d'élèves et ils sont rares, hein, les promoteurs d'écoles qui donnent les contrats de travail à leurs employés. Que faut-il faire pour améliorer les conditions des enseignants qui évoluent dans le secteur privé en RDC? Nous débattons de ces sujets avec nos deux invités qui sont présents avec moi ici au studio. Nous allons commencer notre émission avec nos deux invités. Monsieur Jean Moussa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel état de lieu faites-vous du secteur de l'enseignement privé en RDC?
Oui, comme vous venez de dire, je suis d'abord d'emblée à remercier tous les auditeurs qui nous écoutent partout. Nous disons que l'état des lieux que nous pouvons faire ici, vous constaterez que c'est un secteur qui est en train de beaucoup aider le gouvernement à ce que l'enseignement soit de qualité partout, par-ci, par-là, mais les conditions de vie de ces enseignants vraiment restent toujours à déplorer.
Monsieur Brian, vous confirmez ce que monsieur Jean Moussa a soutenu?
Certainement, monsieur le journaliste. Ici, il est important qu'on puisse surtout souligner d'autres aspects pour compléter la liste bientôt peinte. Il y a la question des contrats du travail, comme vous l'avez souligné à votre introduction. Et en dehors des problèmes de la signature des contrats du travail, il y a la gestion et les processus d'engagement des enseignants dans ces secteurs, puisqu'on ne va pas directement s'attarder sur la question de comment les gestionnaires gère bien ou encadre les enseignants, sans toutefois savoir comment ils arrivent à engager ces enseignants. Est-ce qu'ils sont réellement des enseignants? Si oui, nous les félicitons et félicitons le courage de ce promoteur qui respecte les normes dans l'engagement des enseignants. Mmh. Et ainsi, pour ceux qui ont trouvé de bons enseignants, nous voulons qu'ils puissent les gérer correctement et en respect de tous les textes et lois qui existent dans les sous-secteurs de l'EPST.
Oui, mais M. Jean Moussa, en termes de qualité, dans le secteur privé, l'enseignement, il est de qualité, au fait.
Oui. Ça, c'est vraiment indubitable. Hein. C'est confirmé partout, sur toute l'étendue de la République. Les meilleurs enseignants, je vous confirme, sont dans des écoles privées. Je ne suis pas en train de dénigrer nos amis qui sont dans le public, mais il faut voir quelles conditions que ces enseignants travaillent.
Vous êtes dans le secteur depuis combien d'années?
Bientôt 20 ans. 20 ans dans ce secteur et avec beaucoup d'expérience que je sur le terrain. C'est pourquoi nous avons eu quand même ce courage à pouvoir aborder même l'autorité tutelle, son Excellence Monsieur le Ministre Tony Mwaba, que je salue en passant, et qui a eu quand même du courage à pouvoir organiser pour la première fois la table ronde de l'enseignement privé qui avait comme thème l'engagement sur les écoles, l'acte d'engagement sur l'école privée agréée, qui a été signé même pour constater que c'est un secteur où nous devons vraiment faire un effort et donner plus le meilleur de nous-mêmes.
Oui, mais M. Brian, quels sont les problèmes qui ont été relevés au cours de cette table ronde que vous avez convoqué au mois de septembre dernier?
La table ronde a traité principalement trois sujets et pour l'amélioration de l'école privée, puisque le thème principal était engagement pour une école privée de qualité. Alors, pour avoir une école de qualité, il faut voir d'abord les conditions d'accès dans une école privée. Il faut voir la gouvernance, comment est-ce que les écoles privées sont gouvernées. Et aussi, il fallait voir les problèmes de la qualité. Mmh. Alors, la table ronde a traité sur ces trois sujets. On a trouvé qu'il y avait tellement de la matière que les secteurs n'étaient pas encore exploités. L'œil de l'État n'était pas totalement fixé. On s'est limité à octroyer des arrêtés d'agrément aux écoles. Parfois, dans le non-respect des normes, puisque les conditions de viabilité n'étaient pas...
Les
points, oui, ça n'intéressait pas totalement à l'autorité qui octroyait les arrêtés d'agrément, ce qui a ramené à la prolifération des écoles privées. Vous les retrouvez maintenant dans toutes les conditions mauvaises et malsaines. Ça ne facilite pas l'atteinte de la bonne qualité de l'enseignement. Les conditions dans lesquelles les enfants étudient, les conditions de construction des écoles privées, ce sont des problèmes qui gangrènent les secteurs et qui, à la base desquels nous constatons les rabais de la qualité de l'enseignement.
Monsieur Jean Moussa, qu'est-ce que les enseignants du secteur privé, au fait, font face à quelles difficultés au quotidien?
D'abord, la première difficulté ici, c'est comme mon ami venait de l'évoquer, nous avons le survie de l'enseignant. Donc, l'enseignant n'a pas une vie normale. C'est comme s'il n'est pas un citoyen congolais, et c'est comme s'il vit dans un monde ailleurs. D'autant plus que on a toujours dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel.
Oui.
Et l'enseignant qui aujourd'hui se donne à un travail très très difficile, vous le connaissez, il doit d'abord préparer la matière, il doit aller exposer cette matière lui-même, il doit assurer vraiment une condition de vie meilleure chez soi, s'il faut le dire, et vous constatez que cet enseignant est abandonné. Totalement abandonné.
Et là, vous avez dit que c'est depuis 20 ans que vous êtes dans le secteur, donc c'est la carrière que vous êtes en train de faire, au fait.
Certainement. C'est pourquoi nous déplorons cette façon de faire les choses. Parce que
quelle est cette façon de faire les choses?
Mais on dit ceci, il n'y a jamais eu du sous-métier, il n'y a que des sous-gens. Cette façon de faire les choses, c'est d'engager les gens sans toutefois passer par un contrat. C'est de pouvoir chasser à tout moment les enseignants sans toutefois les préaviser, comme le code du travail le prévoit. Parce que nous devons souligner que nous sommes les travailleurs.
Oui.
Et nous sommes régis par les
codes du travail.
Oui. Et dans le code du travail, tout a été déjà prévu.
Oui.
Alors, le régulateur a vu que, le législateur aussi, il a compris que non, nous devons passer par des conditions de travail comme tout autre. Ça se passe ailleurs.
Oui.
Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, le promoteur, il doit d'abord prendre l'école comme si c'était un bien privé. Alors que l'école n'est pas un bien privé.
Non, parce que vous rendez un service à caractère public.
Oui, mais c'est ça la définition. Si nous considérons, nous avons traité ces problèmes dans la table ronde. Donc l'école a comme définition, c'est un bien à l'utilité publique.
Oui.
Parce que les gens qui y accèdent, l'enseignement qui est donné là, ce n'est pas une propriété privée. C'est ça le problème. Maintenant, c'est cette personne qui est abandonnée. L'État a vite compris que non, il a fallu vraiment parler de cette catégorie de personnes qui est marginalisée. Nous avons deux types d'enseignants. Les enseignants du secteur privé et public. Le public, vous l'écoutez à tout moment, il réclame, il oui. revendique et il obtient les gains de cause. Mais dans le privé, c'est abandonné, chacun qui évolue de sa manière. C'est ça le problème.
Monsieur Brian, parlez-nous un peu de votre expérience dans là où vous travaillez. Vous êtes couvert par une assurance médicale, il y a un contrat qui vous lie avec les promoteurs d'école en cas de maladie, en cas de retraite, et tout est défini.
Certainement, monsieur le journaliste, nous allons convenir que le secteur privé est tellement vaste que si nous voulons recouvrer en termes de pourcentage les promoteurs qui font signer les contrats du travail à leurs enseignants, ils ne représentent pas 10%. Ils ne représentent pas 10% et ils sont très rares et il faut que tout le monde emboîte le pas. Il faut que tout le monde comprenne que quand on construit une école privée, on ne veut pas d'abord s'enrichir avec sa famille en premier lieu, puisque on exploite les vies humaines. Et les gens qu'on engage comme enseignants, ce sont des responsables, ce sont des gens qui attendent, qui sont beaucoup attendus de leur famille aussi, dans leur famille.
Oui.
Et lorsque vous les maltraitez, quelqu'un qui vous compte déjà 20 ans dans l'enseignement, mais qui n'est pas à la hauteur de vous montrer l'espace de 3 mètres carrés où il va construire la maison une fois fatigué. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui s'en va et l'âge avance. Est-ce qu'il y aura un moment de récupération? On ne vit pas au brouillon. La vie continue et la vie avance, l'âge avance. Voilà pourquoi, avec la détermination de redorer l'image et surtout de faire respecter les droits de l'enseignant du secteur privé, nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place cette structure qui va permettre à ce que nous suivions de près les conditions de vie des enseignants. On approche les promoteurs, qu'on dise à l'État ce qui se passe pour que, en tripartite, on trouve des solutions adéquates aux problèmes liés à la vie sociale des enseignants du secteur privé.
Monsieur Jean Moussa, au terme de la table ronde, les conclusions qui ont été prises, les résolutions prises au cours de cette table ronde, vous avez amené ces dossiers auprès du ministre. Est-ce qu'il était réceptif?
Oui, il était respectif parce que c'est le ministre qui a d'abord ouvrir cette table ronde avec un discours d'ouverture et il en a clôturé. Et quand il a clôturé, par après, il y a des résolutions qui lui ont été déposées et que lui a pris un acte d'engagement qu'il va se donner à fond parce qu'il est là en train de lutter contre les anti-valeurs. Et l'année scolaire en cours avait comme mission c'est l'année de l'inspection et de lutte contre les anti-valeurs sur toutes ses formes. Voilà pourquoi nous les enseignants, nous sommes là, comme mon frère l'a dit, s'il faut évoquer aussi un cas qui nous blesse dans notre gestion, dans notre façon de voir les choses. Vous savez, un enseignant est en train de travailler, mais il ne sait pas à la fin de sa carrière comment il va s'en sortir. Avec aujourd'hui, l'État n'est pas dupe. L'État a mis un des mécanismes que nous appelons les après le travail, qu'est-ce que nous allons devenir.
Oui.
Chaque travailleur dans un coin, peu importe où il se retrouve, que ce soit dans le secteur public ou privé. Mais dans le privé, vous avez, et c'est pourquoi l'État a mis à la disposition de tous les travailleurs la
Caisse nationale de sécurité sociale.
Oui. Que nous appelons la CNSS.
Oui.
Mais aujourd'hui, je vous dis en termes de pourcentage, 1% sur l'étendue de la République démocratique du Congo, les chiffres sont vérifiables. Vous n'allez pas trouver que les enseignants ont leur numéro de numéro d'affiliation. Vous comprenez? Mais à chaque fois qu'il y a paye, à partir de ce mois de septembre, beaucoup d'écoles ont déjà payé, mais si vous pouvez mentionner avec votre micro-baladaire, demandez est-ce qu'il y a le frais qui vous ont été retenus qu'on appelle la CNSS, l'enseignant va accepter. Mais il sait très bien qu'il n'a pas un numéro. Il ne sait même pas là où il peut aller réclamer. Il ne sait même pas sur quel pied il faut danser. Mais vous savez, c'est cet argent qui s'envole au nom de l'État, mais que le propriétaire n'arrive pas à bénéficier. L'État aussi insu. Et tous ces problèmes, nous les avons déposés chez le ministre. Nous attendons des solutions adéquates pour que l'enseignant du secteur privé puisse se retrouver.
Que faut-il faire pour améliorer les conditions des enseignants du secteur privé en RDC? Nous débattons de ces sujets avec nos deux invités qui sont ici au studio. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et au courriel dénommé service@radiokapi.net.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous allons au standard pour donner la parole aux auditeurs, à la première vague des auditeurs qui y ont appelé à travers les pays. Nous commençons par Jean Jonas qui est à Kananga, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Taki, bonjour à tous les invités qui sont avec vous sur le plateau et
oui.
À tous les auditeurs qui nous écoutent.
Nous abordons le thème concernant l'amélioration de conditions de travail des enseignants du secteur privé. Qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport à ces sujets?
Oui, merci Monsieur Taki, le sujet est important et... Nous félicitons la radio Okapi parce que c'est une radio qui est toujours à côté du peuple et qui perçoit facilement les difficultés des citoyens congolais. Mmh. C'est comme vous l'avez souligné d'entrée de jeu, les enseignants des écoles privées sont enseignants au même titre que ceux qui sont payés par l'État. Mmh. Et l'un des invités l'a dit, c'est dans les écoles privées où on trouve des meilleurs enseignants. Alors, mais ils sont par moment mal rémunérés et puis les conditions de travail ne sont pas vraiment humaines. Bon, mais je suis en train de saluer la mise sur pied de la structure. Alors je vais demander d'emblée dans l'entrée des jours à l'un des invités. Bon, qu'est-ce qu'on va réclamer chez l'État parce que ces enseignants-là ne sont pas engagés par l'État. Ils sont dans les écoles privées. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on va demander à l'État? Et la deuxième de question, bon. Nous avons entendu parler de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quel conseil l'invité ou les invités donnent-ils aux enseignants des écoles privées qui sont sollicités par la CNSS? Parce que c'est une Caisse nationale de l'État, de sécurité sociale, des agents de l'État, mais ceux-là qui ne sont pas payés par l'État sont aussi sollicités pour adhésion. Et en plus, bon, il s'avère que certains promoteurs des écoles privées, je peux utiliser le mot, maltraitent les enseignants. Ils sont en train de peser force sur les enseignants. Ils les font travailler durement alors qu'ils payent mal, ces enseignants-là. Bon, quel conseil il va leur donner, il va donner à ces promoteurs-là pour améliorer tant soit peu les conditions de travail. Et peut-être pour terminer, il y a certaines écoles conventionnées, catholiques, par exemple, orthodoxes. Bon, mais ces écoles-là sont, pour la plupart, sont privées.
Oui.
Oui, donc sont privées, mais il paraîtrait que certaines écoles sont en train dans des poupas ou dans les lobbying, ils sont en train de mener des lobbying pour que l'État puisse les récupérer et payer ces enseignants-là. Alors, je suis en train de demander si ça peut être le cas pour toutes les écoles privées qui sont agréées, parce que c'est le même État-là qui donne les numéros d'agrément à toutes ces écoles-là.
Merci beaucoup Jonas. Les invités auront le temps de répondre à vos trois questions principales. Nous allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Héritier. Bonjour. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour.
Allez droit au but, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
Bon. Aujourd'hui, je voudrais dire que, bon, je ne sais pas si les écoles privées vont chercher quoi après le gouvernement. C'est pas aux écoles, à l'État de venir recruter les enseignants qui sont dans les écoles privées, je pense. Alors, dans la question, c'est la première question que je voudrais poser à un député. Les enseignants qui sont dans les écoles privées, là, seront recrutés par l'État ou bien, ça sera comment? La troisième question de savoir qu'est-ce que l'ordre des assises dans des bosses qu'il y a eu des assises, qu'est-ce que les écoles privées de tous les comme...
Comme problème?
Comme problème, est-ce qu'il y a eu de grands états généraux? La troisième question, c'est savoir la qualité de l'enseignement dans les écoles privées, elle n'est pas bien améliorée, concevant par la France. À Bounia, plusieurs écoles, il y a plusieurs écoles sur privées. Si est-ce que vous regardez la qualité de l'enseignement, c'est un problème, c'est un casse-tête. Voilà ce que j'avais comme préoccupation, monsieur Tati.
Merci beaucoup, monsieur Héritier. Je rappelle que c'est depuis la ville de Bounia que vous avez intervenu. Cette fois-ci, allons à Lubumbashi pour donner la parole à monsieur Charles, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi aux invités.
Bonjour.
Oui, en tout cas, d'abord, nous regrettons, monsieur le journaliste, parce que nombreuses sont des assises qui s'organisent ici à Lubumbashi, ainsi que sur toute l'étendue du pays, pour chercher à remédier à cette question-là de l'enseignant congolais. Vraiment, on arrive même à comprendre que, en tout cas, il n'y a pas les soucis pour remédier. C'est comme si on est en train de se moquer de nous. Et je vous signale que je suis aussi un enseignant. Bientôt, j'aurai 15 ans dans ce domaine.
Dans le secteur public ou privé, monsieur Charles?
Pardon?
Vous êtes enseignant dans quel secteur, public ou privé?
Non, dans le secteur privé.
Merci.
Alors ici, en tout cas, nous regrettons, on nous considère souvent les enseignants privés. Je ne sais pas moi pourquoi d'abord cette appellation-là, ça devrait prendre fin. Parce que nous consommons les programmes nationaux, nous tous.
Très bien.
Alors, on devrait aussi nous considérer au même titre. Comme tel n'est pas le cas, il y a aussi un ministre privé. Dans ces cas, c'est quand même bien rimé. Et puis, il y a la question de la retraite ou la pension. Ne doit pas être oublié dans le secteur privé. Et nous regrettons aussi la non-assistance pendant les grandes vacances, ainsi que le non-versement de la prime appelée frais de démarrage. À chaque début de l'année, vous verrez l'enseignant qui a déjà passé plus de 2 mois, 3 mois de vacances, qui peut-être avant même d'aller en vacances n'a pas été payé depuis le mois d'avril, mais on l'oblige, on l'intimide même de venir commencer le travail. Mais monsieur le journaliste, c'est un humain, il faut aussi penser quand même à lui. Voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup à parler aujourd'hui, mais je demande à ce que, comme le ministre de l'enseignement ne se préoccupe pas de nous, qu'il y ait cette fois-ci un ministre privé. Voilà un peu ce que je voulais parler.
Merci beaucoup Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Monsieur Jean Moustra, comment répondez-vous à la première voix des auditeurs, là, monsieur Jonas et de Kananga, qui voulait savoir en fait les rapports qui vous lient avec les pouvoirs publics, parce que vous faites partie du réseau des écoles privées.
Merci beaucoup. C'est ce que nous avons soulevé ici. Nous courons derrière le temps très rapidement. Je peux quand même lui dire que l'enseignement n'a jamais été privé. Et le ministre, je m'en vais pour balayer aussi peut-être la dernière préoccupation de monsieur qui a appelé à Lubumbashi. Je remercie beaucoup tous nos invités avec leurs préoccupations pertinentes en disant que l'enseignement a une vocation nationale. L'enseignement n'a jamais été privé. Et le ministre, à la table ronde, il a souligné en disant que cette expression école privée ne peut pas exister. L'enseignement privé plutôt est supprimé. Même la direction qui a été appelée la direction nationale de l'enseignement privé a complètement changé. Ce sont des informations. Donc l'enseignant ne peut pas être privé. Sinon, nous disons que l'école est un bien à l'utilité publique. Alors c'est pour répondre que il n'y a pas une vocation. Quelle que nous cherchons chez l'État. Mais c'est l'État qui donne le go. C'est l'État qui donne le calendrier, qui donne le programme national, qui fait tout ça. Alors c'est l'État qui est le propriétaire.
Vous êtes partenaire.
Nous sommes partenaires
à l'État congolais.
Et nous formons les citoyens congolais au même titre que
les enseignants du secteur public.
Voilà.
Et M. Brian, vous voulez ajouter un commentaire?
J'allais ajouter aussi quelque chose, que si nos amis ont des complexes en se disant que nous sommes payés par les promoteurs, ce sont des parents qui nous payent, qui sont nos gestionnaires, qu'est-ce que nous allons faire chez l'État? peut-être qu'ils sont en train de, d'ignorer leurs droits. La loi cadre, qui est le livre principal, le référentiel de l'enseignement national, a donné des conditions de lancement ou d'ouverture des écoles privées. Et quand bien même nos amis sont en train de s'inquiéter sur la prise en charge pendant les vacances et autres, mais il y a de l'article
49. Donc à partir du mois de juillet, vous n'êtes pas payé jusqu'en septembre.
Il y a des écoles qui ne pensent même pas aux enseignants, même pas seulement dans les grandes vacances, mais il y a certaines qui disent aux enseignants que nous payons les prestations, c'est-à-dire même quand il y a des vacances légales, ils ne payent pas des enseignants. Et là, c'est puisque les enseignants ne veulent pas recourir aux textes légaux qui couvrent leurs droits. De l'article 49 à l'article 52 de la loi cadre, l'État a fixé les conditions aux promoteurs ou à quiconque veut devenir promoteur. Mmh. Alors, eux, les enseignants qui sont dans ces secteurs, devraient avoir ces articles-là en tête pour comprendre que face aux menaces de leurs droits, ils doivent revendiquer. Alors, ils vont revendiquer chez qui ? C'est l'État qui est l'organisateur. Quand on va chez l'État, c'est pour dire à l'État que nous sommes incapables de nous défendre. Puisque les promoteurs ont des moyens, les enseignants n'en ont pas. Alors, si nous sommes marginalisés, c'est vous l'État, c'est toi l'État plutôt, qui doit venir pour intervenir à notre sort pour que les droits soient respectés. C'est dans ce sens-là, puisque les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Voilà pourquoi on recourt auprès de l'État pour demander son accompagnement.
Mais c'est Jean-Moussa, vous êtes aussi lié par les codes du travail. Les codes du travail, les codes du travail concernent tous les secteurs, que ce soit privé ou public.
Oui, oui, oui. C'est ce que nous avons souligné ces cas. C'est pour répondre à notre ami de Bounia, qui a voulu savoir si nous pouvons cotiser à la CNSS. Oui. Est-ce que c'est privé? Alors, ce n'est pas important, c'est géré par l'État. Pourquoi nous devons? Non, non et non. L'objectif de cette institution national, c'est parce que lorsque vous travaillez et que vous serez affaibli, donc l'argent, pendant que vous touchez, vous êtes en bonne et due forme, c'est cette institution qui va commencer à vous payer. Mais dès lors que cet argent est soustrayé dans votre compte, dans votre, sur votre salaire, et que à la fin de votre carrière, vous ne bénéficiez pas de cette somme, ça devient une ambiguïté. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons ceci.
Parce que dès la création d'une école, on fait toutes ces déclarations-là. Voilà, les promoteurs vont autant d'enseignants qui sont déclarés.
Je voulais compléter un élément par rapport à ce que Brian a dit. Mm. Et vous savez, ce que la chose là, c'est pour dire que les écoles, lorsque nous créons, ils sont mis en place, nous avons tous les mécanismes possibles. L'État a prévu que le promoteur doit avoir un compte en banque pendant autant de mois, 9 mois. Donc aujourd'hui, le promoteur commence à espérer à payer les enseignants sur le Minerval. Oh, les parents n'ont pas payé. Alors que ce n'est pas ça ce que l'État a dit. Il y a beaucoup de dérives dans cette histoire. C'est pourquoi nous lançons appel à nos amis qui sont à Bounia, Lubumbashi, Kananga, que la structure est là, elle est la nôtre. Nous devons revendiquer nos droits. Tant que vous ne revendiquez pas les droits, vous n'allez pas l'obtenir. Donc c'est l'heure a sonné. L'heure n'est pas à créer le ministère privé, mais l'heure est à régulariser les choses, hein, pour que nous puissions marcher ensemble. Le ministre est compétent. Il se bat. Je vous dis, s'il y a un ministre qui s'est déjà livré à un combat comme celui-ci, je vous le dirai, peut-être il sera le premier.
Oui, mais il y a héritier de Bounia qui a dit, mais pourquoi est-ce que les écoles du secteur privé ne font pas comme l'Église catholique qui a signé la convention avec les secteurs publics pour jouir de certains avantages?
Oui, certainement. À cette préoccupation, nous pensons que le secteur privé lui-même n'était pas organisé, monsieur le journaliste. Puisque nos amis, si aujourd'hui vous demandez que c'est lui qui a intervenu à Bounia, qui nous dise dans son quartier, dans sa sous-division ou dans sa province géographiquement installée, il y a combien d'écoles privées, il ne nous les dira pas. Alors que d'autres se sont déjà organisés de manière que chaque juridiction reconnaît le nombre d'écoles. Et les écoles, là, fonctionnent dans l'unicité. Mais chez les secteurs privés, il y a l'indépendance des promoteurs, il y a l'autonomie, il y a l'autosuffisance. Chaque promoteur est patron de son bien, il ne peut penser à quelqu'un d'autre. Et l'État, à un certain moment, avait aussi un laxisme remarquable.
Oui, oui.
Si vous demandez à l'État de vous donner le nombre réel des écoles privées sur l'étendue du territoire national, ça n'existe pas. Et quand on a demandé de faire l'identification ici, identifions les écoles privées et les enseignants des écoles privées, ce n'est pas connu, il n'y a pas moyen de repérer, puisque on les engage, on les libère volontairement et à toutes conditions, à toutes circonstances. Donc, la première guerre ou la première lutte serait d'abord à mettre de l'ordre dans les secteurs. C'est pourquoi à la table ronde, les résolutions étaient données que on commence par l'identification des écoles privées, on identifie les enseignants, chaque promoteur doit adhérer à une association de son choix, puisque les associations des promoteurs existent, et chaque enseignant doit aussi adhérer à l'association de son choix. Comme nous avons la NEPAC, ça réunit tous les enseignants du secteur privé. Alors, si tu veux être réellement enseignant connu et qui détient des identités remarquables, tu dois appartenir à l'association. Comme ça, si tu as des problèmes, au syndicat, bien sûr, on sait à qui aborder, ou bien auprès de qui on peut se pencher pour que les problèmes soient résolus. Mais si on évolue comme des enseignants électrons libres, là, on va continuer toujours à décrier la maltraitance, on dit qu'on est marginalisé, puisqu'on n'a pas des précisions d'appui. On n'est pas quelque part, on n'a pas d'identification.
Monsieur Jean Moussa, en cas d'accident de travail, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est prévu, au fait?
Je vous dis, en cas d'accident du travail, c'est le code du travail prévoit tous les mécanismes. Mais dans notre secteur, rien ne fait. Rien ne fait, il n'y a pas de suivi, comme mon collègue venait de le dire, et c'est chacun pour soi. Il y a un accident, c'est ton père qui a souffert, qui a payé le frais pour que tu étudies autant d'années là à l'université, qui va encore s'en charger. C'est ta famille, c'est ton oncle, vous comprenez, c'est ton épouse, c'est avec votre petit revenu. Le promoteur te dira, bon, je connais des cas, vous avez un enfant qui est en train de mourir. Hein, ou soit une femme à la maternité qui dit ben, je manque quelque chose, bientôt c'est la mort. Le promoteur dit cela ne m'engage pas. Cela ne m'engage pas. Nous avons des cas comme ça que nous recevons tous les jours ici. Donc c'est un secteur où si nous avons vraiment des gens de bonne foi et qui veulent que ce pays soit redressé, qu'ils viennent soutenir le syndicat ou l'association que nous avons pour que nous puissions vraiment marcher ensemble et donner des solutions à beaucoup de choses.
Mais est-ce que ce problème a été évoqué au cours de la table ronde?
Certainement, le problème a été évoqué, le problème a été traité. C'est pourquoi dans les recommandations, on vous a fait part du.
Oui, j'ai les documents sous mes yeux ici, oui.
C'est pour vous dire que le problème a été au cœur de tout le monde. Et tous les promoteurs présents à la table ronde ont eu la voix haute de son Excellence, Monsieur le Ministre, puisqu'il n'a pas avalé la face, il n'a pas caché des mots aux promoteurs. Il leur a dit que je suis informé à la lettre de tout ce qui se passe dans le secteur privé. Et ce sont ces conditions de maltraitance qui affaiblissent la qualité de l'enseignement. Alors, il est debout. Il avait même, pour votre information, au cours de la clôture, il a dit qu'il va mettre en place une structure juridique au niveau du cabinet pour traiter les questions liées aux conflits dans les secteurs privés. L'idée est que la force en face, ce sont des promoteurs. Les promoteurs doivent s'incliner devant la loi, devant les principes du secteur. S'ils s'inclinent, les enseignants auront aussi un ouf de soulagement. Ils vont travailler dans la gaieté, ils vont se sentir travailleurs et s'attendre à une vieillesse, à une fin de carrière respectée et honorée.
Oui, mais monsieur Jean Moussa, l'État devrait aussi donner certaines subventions à ces écoles-là qui fonctionnent, qui rendent un service loyal à la communauté.
J'ai beaucoup aimé les verbes que vous avez utilisés, il devait. Parce que la loi elle-même, la loi cadre que mon ami a évoqué ici, prévoit cet aspect de faire les choses. Vous savez, je continue à répondre à mon ami là. L'État est pour beaucoup dans notre pays. Il est aussi
quelque part responsable de ce qui arrive.
Il a certaines responsabilités. Dans la loi cadre, c'est bien écrit que l'État doit aujourd'hui subventionner les écoles privées. Mais la subvention, nous ne la voyons pas. S'il y a aujourd'hui, quand on parle de subvention, aujourd'hui il y a même des écoles qui n'ont pas de bancs. Il y a des écoles qui n'ont pas. L'ami l'a évoqué, et nous l'avons évoqué au début. Vous voyez les conditions de bâtiments et tout, donc les infrastructures d'une manière générale qui ne répondent pas. Mais si l'État constate que c'est un partenaire de taille. Je vous dis, je salue d'ailleurs tout le Proved, surtout monsieur de Robert de Founa, et puis de Jean-Marie de Tchangou, et si bien tant d'autres qui font un grand travail pour montrer à la face du monde que l'air a sonné, nous devons appuyer ces secteurs et nous devons appuyer cette structure pour pouvoir vraiment améliorer la qualité de l'enseignement. Donc, je me résume en disant que l'État est obligé de donner des subsides. Donc, lorsque nous parlons à la radio Capi, c'est la radio écoutée, même à la présidence. Nous demandons à notre cher président de la République, lui qui veut la qualité de l'enseignement, et nous lui informons que, cher président, ce n'est pas la qualité de l'enseignement, vous n'allez pas le trouver seulement dans le secteur public. Il est aussi du devoir de soutenir le ministre qui est en train de faire un grand effort. Monsieur Tony, moi,
l'État doit vous accorder certains avantages.
Oui, oui, oui. Et son Excellence, le Premier ministre, qui fait aussi un soutien, un travail de remarquable pour que cette catégorie de personnes, des secteurs privés, avec les enseignants et tout le personnel, puissent se retrouver, y compris les promoteurs. Les promoteurs, ce sont des gens de bonne foi. Nous ne pouvons pas toujours parler en mal. Non, ils sont là, ils ont fait un homme qui n'a pas voulu céder. Il y en a d'autres qui construisent, qui achètent, qui gaspille l'argent et qui font n'importe quoi. Mais quelqu'un qui investit dans l'homme, nous devons les soutenir. Mais nous décrions le mauvais comportement de certains promoteurs qui veulent abuser de la bonne foi, de la bonne mission. Ça, c'est une mission salvatrice.
Noble.
Noble. C'est une mission qu'on doit soutenir. Un promoteur, d'ailleurs, je vous informe à la table ronde, nous avons exigé, parmi les recommandations, qu'il y ait un monument qui sera vraiment battu au niveau de l'avenir de l'enseignement concernant l'enseignement du secteur privé. L'enseignant et le promoteur, nous saluons Massamba et les autres qui ont été
Des écoles privées en RDC. Nous retournons au standard, parce qu'il y a des auditeurs qui attendent, qui doivent...
Je vous dis, c'est
que faut-il faire pour améliorer les conditions des enseignants du secteur privé en RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Envoyez-nous vos questions de suggestions par SMS au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service ou au courriel service@radiocapi.net.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Emmanuel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Monsieur Emmanuel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Il est loin de son téléphone, nous passons au deuxième auditeur. Kalabia Justin, bonjour, vous êtes à Bounia.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur Marcel, bonjour à l'invité.
C'est plutôt Tati qui est au studio. Dites-nous, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
Oui, en tout cas, merci monsieur Tati de m'avoir associé dans cette émission. Oui, en tout cas, quant à moi, c'est déplorable dans notre pays, parce que si nous faisons la comparaison des écoles privées aux écoles... aux écoles publiques de l'État, en tout cas, ce sont les écoles privées qui ont maintenant les monopoles, qui ont le pouvoir, parce que ce sont eux et ils ont des bonnes infrastructures, ils ont en tout cas tout, ils ont tout. Mais lorsque nous partons dans les secteurs, lorsque nous allons dans les écoles publiques de l'État, mais il y a une gestion et il n'y a même pas de bâtiment. Et je ne sais même pas comment l'État, est-ce que les biens de l'État, comment sont gérés. Et puis, lorsque nous faisons aussi allusion, tous les centres des examens d'État sont maintenant entre les écoles privées. Oui. Maintenant donc, ce sont les privés qui ont tous les pouvoirs. Et puis, les enfants qui étudient dans des écoles privées, ce sont même des enfants qui n'ont même pas le respect. Parce que là, selon les initiateurs de ces écoles, on tient compte de ces élèves.
Parce de l'argent qui est payé par les parents, c'est ça?
Oui.
Ah, donc, ces promoteurs négligent la dimension discipline dans les écoles, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire,
oui,
en fait?
Oui. Et donc, ces élèves-là, ce sont des enfants d'abord impolis. Et puis, comme les enfants impolis, vous, en tant qu'enseignant, si vous, en tant qu'enseignant, vous commencez à mettre des rigueurs, et puis au bureau...
Le promoteur vous chasse.
Oui, le promoteur risquera soit de vous chasser, et soit au bureau, on vous intimide que non, monsieur, les enfants ici chez nous, ils sont comme des marchandises, et puis si vous les chassez, vous voyez qu'il y aura un manque à gagner. Vous chassez soit 10 dollars, vous chassez soit 20 dollars. Et puis, il fallait sauvegarder les enfants. C'est un enfant. Donc, dans des écoles privées, on ne renvoie pas les enfants, mais on sauvegarde que ce soit un enfant indiscipliné. Mais il fallait que l'État, nous avons un État, en tout cas, je ne sais pas, nous disons que le Congo, c'est un pays solution, mais je vois que le Congo, c'est un pays problème, parce que nous ne connaissons pas. Nous avons une ignorance dans la gestion des choses publiques de l'État. Il fallait que l'État lui-même puisse se prendre en charge et puis les biens publics soient en tout cas protégés. Il fallait que les infrastructures... Est-ce que si nous avons de bonnes infrastructures dans des écoles publiques de l'État, mais tous les enfants qui sont dans des écoles privées, ils doivent venir parce que dans des écoles publiques, il y a la discipline. Et puis, il fallait les histoires des primes. Lorsque vous partez dans des écoles privées, ce sont eux qui payent bien les enseignants. Mais lorsque vous partez chez le public, là, il y a une médiocrité. Mais il y a des arriérés même de côté de moi. Et donc, moi, quant à moi, monsieur Tiatati, il fallait que l'État se réveille. L'État se réveille, bientôt, heureusement, nous tendons vers les élections. Mais que nos députés qui sont là, nous avons pas mal de députés là. Les députés ne parlent pas qu'une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, et tous vont s'éteindre. Et puis les choses, et puis nous les attendons encore ici, et d'ici peu nous les attendons. Merci monsieur Tati et bonne journée.
Merci beaucoup, je rappelle que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez monsieur Justin. Retournons à Lubumbashi, la résolution Mephestine que Emmanuel l'a mise en ligne. Bonjour monsieur Emmanuel.
Bonjour monsieur Tati, Emmanuel Ndala depuis Lubumbashi. Je salue les invités qui sont avec vous dans le studio.
Merci.
Et merci pour le choix de ce thème très pertinent. En fait, si nous remarquons ce qui se passe dans les écoles privées, en tout cas, c'est vraiment très déplorable, très, très déplorable. Alors que l'État congolais, que nous tenons pour responsable par rapport à tout ce qui se passe dans les écoles privées, avait tout prévu dans la loi cadre. Si vous parcourez la loi cadre, elle répond à toutes les questions que nous sommes en train de soulever, y compris les conditions pour agréer une école, les traitements des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants travaillent dans une situation vraiment comme l'école est privée. D'ailleurs, c'est le terme que je pouvais aussi proposer à notre jour, que les autorités fassent un effort de changer ce terme-là privé, parce qu'il va créer beaucoup de problèmes. Tout est privé dans les écoles. Les promoteurs se comportent comme des chefs coutumiers. Ils peuvent t'engager le matin et te chasser le soir.
Donc, vous êtes enseignant dans le secteur privé, M. Emmanuel?
Vraiment, j'ai plus de 17 ans dans l'enseignement.
Ah, d'accord.
Dans le secteur privé. Donc, on peut vous engager le matin et on vous révoque le soir. Les salaires, on ne sait pas sur base de quel critère il est calculé. Vous entrez seulement au bureau, vous présentez une petite fiche qui ne ressemble pas même à un bulletin de paye.
Oui.
On vous dit de signer. On ne sait pas ce montant était calculé sur base de quoi. Vous pouvez aussi constater que même la date de paye n'est pas respectée. Il y en a ceux-là qui sont payés le 30, d'autres le 40, d'autres le 50. Donc, tout ça, c'est l'école privée. Vous pouvez vraiment... Donc, nous vivons dans une insécurité totale. On ne sait pas à quel sens se vouer. Comme les invités ont dit qu'il y a une table ronde, nous allons proposer qu'il y ait aussi un cadre juridique très contraignant pour que tous ces promoteurs-là qui s'évertuent d'ouvrir les écoles sachent au moins que les enseignants qui sont dans leurs écoles ne sont pas leurs biens privés, ce sont des travailleurs qui sont soumis aux caprices et aux conditions du code du travail. Combien d'écoles font signer aux enseignants les contrats de travail? Elles sont à compter au bout du doigt. Combien d'écoles octroient des décomptes
final
aux enseignants? Elles sont à compter au bout du doigt. Mais on ne sait pas c'est quel secteur dans lequel nous évoluons, alors que nous contribuons vraiment à la formation de l'élite congolaise. Si vous voyez bien que c'est nous, les écoles privées ici, qui formons quand même par rapport aux amis
ils sont dans les...
Oui, et vous avez rendu des loyaux services lors de la, pendant la crise des années 90, hein? 90 et 97.
Vraiment. Et il faut voir aussi pendant les vacances comment est-ce que les enseignants vous souffrent. Alors nous encourageons vraiment les amis enseignants parce que ce qui nous détruit, c'est la peur de réclamer nos droits. Si nous pouvons une fois de plus prendre courage, réclamer nos droits pour que nous soyons placés dans de très bonnes conditions, parce que si nous continuons comme ça, nous risquons de sacrifier l'enseignement. Vous voyez que l'enseignant, pour nouer les deux bouts du mois, il est obligé de cumuler. Donc le matin, il est dans une école, le soir dans une autre école, et vous voyez maintenant la deuxième école qui le reçoit le soir, ne reçoit que le miette de son rendement.
Mmh.
Alors, nous devons vraiment faire tout pour que l'enseignant dans le secteur privé soit placé dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup.
Je vous en prie, je rappelle, M. Manuel, que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Merci beaucoup. M. Jean Moussa.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je remercie encore tous les invités avec leur intervention.
Les auditeurs,
ouais, les auditeurs plutôt. Et je suis en train de dire ce que je veux parler de quelque chose que monsieur Manuel a dit ici et qui est tellement important. Oui, nous attaquons l'État. Je ne suis pas là l'avocat de l'État ou défendre l'État. Mais en droit, on dit, le droit est droit si vous reconnaissez que c'est votre droit.
Et il faut les réclamer.
Et il faut les réclamer. Aujourd'hui, les enseignants, comme il a bien souligné que les enseignants sont peureux, ils sont poltrons. Oui, nous croyons. Mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous avons mis en place une structure qui leur appartient. Ça, c'est une structure, donc les CINEPAC, ANEPAC, ce sont des structures. Ça, c'est un syndicat national des enseignants des écoles privées agréées au Congo et une association nationale des enseignants des écoles privées
à Congo. Est-ce que vous avez des antennes à travers les pays?
Oui, nous avons les antennes. Juste après l'émission, nous allons nous contacter à Lubumbashi. Nous sommes à Lualaba, nous sommes à Goma.
En Mbandaka,
c'est bientôt. Voilà, okay. La paix, nous demandons que dans tous ces coins, dans tout le coin de la République, que ces amis viennent, que nous unissons les efforts. L'État a besoin que nous revendiquons. Je pose la question, je suis invité, mais je peux aussi poser la question en tant que journaliste. C'est ma question est une solution à un problème.
Une interpellation, en fait.
Oui, oui. Et avez-vous déjà entendu la grève des enseignants des écoles privées agréées?
Non.
Non. Voilà. C'est pour dire que ces enseignants, maintenant, ont une issue. Venons, réclamons. L'État est prêt pour aider. Mais on va aider qu'à celui qui a demandé.
Oui.
Si vous n'avez pas demandé, comment on saura que vous avez faim? Voilà. Nous sommes en train d'habituer à crier derrière nos maisons. C'est ce qui fait mal chez nos amis. Aujourd'hui, nous sommes une structure officielle. Nous avions été invités à la table ronde par la voix officielle. Nous avons participé, nous avons donné tout ce qu'on parle ici, les solutions y est. Mais venons, réunissons-nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de descendre dans des écoles. Il y a de ces écoles qui se cachent, qui disent non, mon école est déjà syndiquée. Non, ça c'est l'État qui a, parce qu'il n'y a jamais une structure, nous demandons que nous soyons appuyés quand les ordres de mission de nos agents qui descendent sur le terrain, que l'État, à travers ses services, qu'il puisse nous appuyer pour que nos agents soient bel et bien sécurisés. Parce que la mission que nous faisons, la mission que nous rendons, le travail que nous faisons, c'est pas pour nos intérêts, mais c'est pour l'intérêt du pays. Nous voyons là où le pays est en train de partir. Avec l'invité de Bounia, qui a dit que
l'auditeur
il a parlé bien de promoteurs qui ne veulent pas regarder l'aspect discipline, mais l'aspect finance.
Oui.
Mais c'est à nous de dénoncer. C'est à nous de revendiquer. Si l'enfant n'arrive pas, nous sommes, toi tu es chef d'établissement, nous devons travailler. Et vous savez, l'union fait la force. L'union fait la force, cher enseignant. Voilà ce que j'allais dire.
Oui, Brian, un commentaire par rapport aux revendications d'Emmanuel de Lubumbashi qui a déploré les conditions dans lesquelles vous travaillez dans les secteurs.
Emmanuel est tellement intéressant dans ce qu'il est en train de dire. J'ai senti que l'enseignant congolais réfléchit de la même manière partout. Puisque ce qu'il a dit là, c'est ça que nous rencontrons même dans nos rues quinoises. J'étais une fois en une mission de service à Mujimaï, c'était dans le cadre de l'association toujours. J'étais devant une catégorie d'enseignants à comparer à ce que M. Manuel venait de dire.
Mmh.
Puisque si vous bougez un enseignant, vous avez bougé toute sa vie.
Oui.
Il est enseignant dans 3 écoles différentes. Représentons-nous un peu les faits. Il ne peut pas être aussi attachés à une seule école puisque la rémunération ne correspond pas aux attentes ni aux besoins, même pas les élémentaires des besoins. Alors il doit cumuler. En cumulant, il a trois différentes écoles. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces écoles-là? Est-ce que ces enfants-là auront les meilleurs qu'il faut pour l'avenir? Non. Et le lendemain, ce sont ces enfants-là qui postuleront comme des députés nationaux.
Et même l'enseignant qui se dépense intellectuellement, physiquement dans trois écoles les jours, pas facile.
C'est pas facile. Et il les fait comme ça pour réunir combien à la fin du mois? Il a moins de $100, bien qu'il est dans trois différentes écoles. Moins de $100 dans toutes les trois écoles. C'est grave. Et le lendemain, il va former les enfants qui seront des députés nationaux. Et c'est notre chambre qui va souffrir. Il y en a qui sont là et on n'a jamais entendu leurs interventions, puisqu'on sent que là-bas, on va pour trouver l'argent et la base, il n'y en a pas. On décrit les systèmes, voilà, les Congo n'avancent pas. Ça va avancer comment, puisque l'éducation n'est pas aussi trop éclairée et sécurisée. Alors, ce qui est mieux à faire, c'est interpeller la conscience de ceux qui gèrent les secteurs de l'éducation. L'État doit reconnaître ses responsabilités. Les enseignants doivent faire ce qu'ils doivent faire. Ils se donnent. Déjà, ça se laisse voir. Ils se donnent, ils travaillent. Les promoteurs, ce sont des partenaires. Ils doivent reconnaître la dignité humaine et donner le meilleur, tenir compte de la qualité de l'humanisme. Voir que qu'est-ce que je peux faire si dans ma vie, dans ma famille, je vis comme ça, alors comment l'enseignant aussi vit chez lui? Les parents aussi, puisque toutefois nous avons parlé de l'État, des promoteurs, on a oublié.
Des parents qui sont vos partenaires.
C'est lui-même à qui on rend ces services-là.
Oui.
Qu'est-ce qui amène certaines écoles à vexer dans des magouilles et dans des antivaleurs? Ce sont des pressions de certains parents. Un parent qui n'a jamais accepté que son enfant redouble la classe. Si l'enfant ose échouer, on les déplace d'une école à une autre. Oui. Donc, les parents n'acceptent jamais les redoublements des classes. Et l'enfant est à la maison, il n'étudie plus, les parents ne payent pas de frais, mais à la fin, on attend que l'enfant passe des classes. Ça, c'est aussi un problème.
Monsieur Jean Moussa, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Un appel à lancer à l'intention des enseignants, surtout par rapport à votre association et puis au pouvoir public, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à arranger dans le secteur.
Merci beaucoup. Le premier appel, c'est l'appel à la conscience. Comme mon frère venait de le dire, nous demandons la conscience. Le Congo est un pays qui nous appartient tous. Et le lendemain du Congo nous appartient. Nous pouvons, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain. Donc ça, c'est un appel à la conscience, aux enseignants de venir en masse, de s'adhérer et de prendre à bras le corps les structures, donc les CINEPAC et ANEPAC qui constituent leur porte-parole. Hein. Nous sommes là pour travailler.
Oui, les moyens de contact rapidement pour les enseignants qui sont à l'intérieur du pays.
Certainement. Si vous voulez nous contacter ici, vous prenez 081 48 00 55 à la fin. Et je peux recommencer 081 48 00 55 à la fin. Et mon ami peut compléter aussi ce que
je pas. Pour
en quelques mots, donc moi je, oui,
pour faciliter aussi les contacts pour ceux qui ont les réseaux Orange, ils peuvent nous contacter au 089 421 44 56. 0429 421 44 56.
Merci d'avoir été avec nous pour débattre de ces sujets liés à l'amélioration de conditions des vies des enseignants du secteur privé. Merci. À la prochaine occasion, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.
Plaisir partagé.
Merci.